Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix de la Plume, je suis Aurore et j'aurai le plaisir d'animer cette nouvelle émission mensuelle. Avec moi, il y a deux invités, Gilles et Louis, pour ce soir.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, c'est cool de vous avoir avec nous. Voilà, La Voix de la Plume, c'est une nouvelle émission. Le principe est le suivant. Vous faire découvrir des auteurs, locaux si possible, qui viendront parler eux-mêmes de leurs œuvres et de ce qui les a poussés à prendre la plume. J'espère pouvoir, au fil des mois, vous faire découvrir ou redécouvrir des tas de genres différents. Polar, fantasy, romance, conte, BD aussi, ça serait cool, et bien d'autres genres aussi. C'est toujours l'auteur qui est interviewé qui va donner le thème de l'émission, en fonction de la création qu'il voudra nous faire partager. Et en suivant ce fil rouge, eh bien, du coup, nous accueillerons un deuxième invité mystère, qui soit lui aussi créateur, artiste, commerçant, ou j'en passe. Voilà, ce fil rouge, ce sera aussi l'occasion d'écouter des musiques qui nous feront aussi voyager. Et que serait la voix de la plume si je ne vous donnais pas l'occasion de la prendre, cette plume. Voilà. Peut-être que je peux vous dire un mot sur moi aussi avant de commencer. Donc, je m'appelle Aurore, mais ça, je crois que j'ai déjà dit. Je suis chef de projet, aromathérapeute et aussi auteur sous l'alias AYG Bleu. Voilà, c'est mon petit nom d'auteur. Mon dernier roman publié en date s'intitule « Journal déjanté d'un jeune DG ». Il a été coécrit avec 6 autres auteurs. C'était une belle aventure. Traité sous forme de roman, donc, mais avec beaucoup d'humour. C'est un livre qui aborde des thèmes profonds sur les modes de management et la place du bonheur au travail. Et un petit peu plus en lien avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, je suis aussi auteure d'une saga fantasy, cette fois, qui s'intitule L'Onéida. Alors, c'est une saga qui vous transporte dans un univers empreint d'une magie colorée, où les dons se font de plus en plus rares. L'Onéida est un mot qui signifie impatiemment attendu et il est l'objet d'une prophétie qui inquiète le souverain du royaume de Riwalen autant qu'il attise sa convoitise et aussi celle de ses voisins. Le premier tome, Les Miroirs Portes, se veut plutôt initiatique. C'est l'avenir de 4 jeunes désignés du royaume qui se joue, mais aussi l'avenir du royaume qui est en jeu. Le deuxième opus qui est sorti en 2020, qui s'appelle L'Onéida, les liens du sang, ouvre les horizons du monde qui entoure cette Onéida et nous fait voyager aux confins du continent étoilé, peut-être même au-delà. Voilà pour ma carte de visite. Vous pouvez retrouver toutes mes activités, que ce soit l'écriture ou les autres activités, sur mon site lessynergiesd'aurore.fr, en HTTPS parce que c'est un site sécurisé. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil et aussi sur mon Insta AYGBleu. Voilà, maintenant que j'ai la gorge bien toute sèche d'avoir parlé, je vais introduire mon premier invité, Gilles, qui va pour cette première de La Voix de la Plume nous plonger dans l'univers de la fantasy avec sa saga Les Compagnons de l'Orbe. Merci Gilles d'être avec nous ce soir.
Bah, merci à toi d'avoir invité.
Alors moi je connais un petit peu ton univers, est-ce que tu pourrais l'expliquer à tout le monde, quand on a la chance d'avoir l'auteur avec soi, on en profite.
Donc ouais, effectivement, c'est du fantasy, donc très tourné humour, bien sûr. Donc c'est une saga qui fonctionne un peu comme les jeux de rôle et les jeux vidéo, en fait. Donc mes héros sont des aventuriers plutôt turbulents, donc lancés dans des quêtes qui les amènent à voyager sans cesse et à affronter toutes sortes de situations improbables. Donc ils ont donc des points de vie, des points d'expérience, des potions de mana, enfin tout ce qu'on aime dans l'aventure.
Et ça ressemble beaucoup à des jeux vidéo, ça, d'avoir des points de vie.
Oui, tout à fait. J'ai voulu rappeler cet univers que j'aimais bien. Donc, par contre, il flirte aussi pas mal avec la mort, mais c'est abordé de façon légère. Et puis, donc ça rappelle un peu l'univers de John Lang, Noël Buck.
D'accord. Donc il meurt ou il meurt pas, du coup, tes personnages?
Ben, je m'arrange pour qu'il meure pas trop souvent, quand même.
Et donc, comme dans les jeux vidéo, s'il meurt, on peut avoir une vie supplémentaire?
Eh ben, il peut leur arriver de revenir, parce qu'ils ont des points de destin qu'ils savent utiliser. Mais il passe par la mort que j'appelle le chapitre 14 en hommage au livre dont vous êtes le héros, que j'utilisais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai voulu créer surtout un monde qui fasse du bien à lire avec des personnages qui soient à la fois drôles, vraiment sympas et très soudés. Donc c'est un genre feel good, déjanté, marrant. Voilà.
Et fantasy.
Et fantasy.
C'est vrai que c'est toujours un peu grave, la fantasy. Souvent, c'est des univers un peu noirs. Et là, c'est vrai que ça fait du bien d'être avec des personnages qui rigolent, qui se marrent.
Ouais, c'est du super léger. Ouais. Je voulais que ça fasse vraiment quelque chose qui sorte du monde dans lequel on vit et qui fasse du bien. C'est vraiment le but.
Cool. Moi, il y a une question qui me vient quand je vois les 5 livres que tu as écrits. Que les auditeurs ne voient pas, mais voilà, qui pourront retrouver sur quoi d'ailleurs ?
Bah donc, il y a une page Facebook, Les Compagnons de l'Or, mais sinon, il y a un site, lescompagnonsdelor.com.
Ok, super. Comment on en vient à créer un univers de fantasy et à être aussi intarissable que tu as l'air de l'être ?
Bah, moi, ça a commencé de façon assez simple. En fait, j'ai 2 enfants et quand ils étaient petits, je leur faisais écouter beaucoup de sagas audio. Donc, on partageait énormément en famille avec ces sagas. On avait des répliques cultes et on était très attachés à ces écoutes. Mais les suites des épisodes tardaient à sortir. Donc, j'ai dit, tiens, allez, on va se créer une histoire pour nous. Je leur ai dit, choisissez-vous un personnage. Donc mon fils s'est choisi un nain, ma fille une druide, moi je me suis créé un perso comme ça. J'ai fait les fiches perso, j'ai écrit un chapitre pour voir un peu ce que ça donnait. Et ils sont assis autour de moi, ils ont accroché tout de suite. Donc j'ai continué pour leur faire plaisir. Et de chapitre en chapitre, ça a fait un tome. Wow. Après un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là aujourd'hui, ils ont passé 20 ans tous les deux. Et ils continuent à me demander des séances lecture, ils se mettent autour et ils participent. Donc c'est une grande victoire pour moi, ça, d'un point de vue familial.
Ah, tu m'étonnes, c'est super. Et d'accord, donc comme ça, tu as commencé à raconter une histoire, comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Et du coup, ça fait plusieurs années donc, que tu t'es lancé corps et âme dans l'écriture. Qu'est-ce que tu faisais avant d'écrire et est-ce que tu arrives à en vivre ?
Alors, avant d'écrire, c'est mal, mais je geekais beaucoup. Parce que
pourquoi c'est mal ? C'est pas mal.
Parce que j'adore jouer, donc je passais des heures sur mon PC à jouer à toutes sortes de jeux qui m'ont d'ailleurs pas mal inspiré par la suite, comme la série Stalker, Metro et compagnie, que j'aimais beaucoup. Est-ce que j'en vis ? Non, bien sûr, j'ai un métier à côté qui me permet de vivre, j'écris vraiment pour le plaisir. Donc ça permet d'avoir aucune pression, ce qui n'est pas négligeable.
C'est pas faux. Et du coup, c'est quand même un investissement en temps. Si tu as du coup ta famille, tu as ton travail, l'écriture, ça doit te prendre un certain temps.
Oui, c'est un très gros investissement en temps parce que il faut pouvoir se concentrer pendant des heures pour concevoir les histoires déjà. Après, beaucoup travailler les dialogues, il y a énormément de travail de recherche et de relecture. Ça prend un temps fou, oui.
Ok, tu as mis à peu près combien de temps à écrire tes livres du coup ? Même si tu n'avais pas de pression, on a quand même envie d'arriver au bout de son...
Ah oui, ouais, on a envie. On a envie de voir le dénouement. Il me faut à peu près un an et demi pour écrire un tome.
Ok, ça va, c'est quand même raisonnable. Ça fait une bonne fréquence, on va dire.
Ouais, ça fait beaucoup de boulot, mais après, c'est une passion, donc c'est un plaisir.
J'ai cru comprendre aussi que tu avais choisi de t'auto-éditer, et j'ai bien dit choisi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à faire ce choix et comment on fait pour s'auto-éditer ?
Alors, la première chose qui m'a amené à faire ce choix, c'est que je voulais pouvoir vendre des gros romans, parce que je fais généralement entre 5 et 600 pages en grand format.
Ah ouais.
Je voulais qu'ils restent à des prix abordables pour que tout le monde puisse les avoir. Les jeunes n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour acheter des livres chers, donc je voulais pouvoir publier par exemple des 600 pages à 17 €, ce que je fais d'ailleurs.
Et ah oui, c'est raisonnable, effectivement.
Et le seul moyen de faire ça, c'est de s'auto-éditer. Parce qu'après, en passant en maison, les prix montent tout de suite, et ça, je ne voulais pas. Et en plus, ça permet de garder une liberté totale pour tout ce qui est de l'écriture, quoi, l'écriture propre.
Donc, personne ne te dit ce que tu as à faire, finalement. T'es le capitaine du bateau, quoi.
Voilà, puis il n'y a aucune pression au niveau du temps, quoi. Ça rend beaucoup plus libre. Sur les même au niveau des salons, ça permet d'emmener ce qu'on veut, de vendre des goodies, de pouvoir partager beaucoup plus librement, quoi. Donc ça, c'était vraiment pour la liberté que j'ai fait ça. Après, ça demande aussi énormément de travail supplémentaire quand on s'auto-édite, parce que il faut commencer à maîtriser toutes les mises en page propres à l'édition. Il faut faire des relectures encore et encore, dont des relectures à haute voix, ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps.
Tu as des relecteurs spécifiques, du coup, ou tu fais ça tout seul ?
Non, j'ai quelques personnes qui lisent et qui me disent ce qu'elles en pensent. Et après, j'ai des correctrices qui relisent et là, qui me corrigent tout ce qui est...
Des correctrices ?
Ouais, voilà, des correctrices.
Ok. Et il y a des inconvénients aussi. Enfin, j'imagine, tu parles du temps et le fait que tu sois seul à relire. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Oui, l'inconvénient majeur de l'auto-édition, c'est qu'on est très peu diffusé, donc très peu connu. Voilà, ça, c'est clair.
Oui, toute la promo et tout, c'est à toi, elle t'incombe en fait.
Voilà, il faut gérer soi-même la promo. Et ça, c'est un gros boulot et c'est très compliqué. C'est l'inconvénient.
Ok, bah ouais, je comprends, normal. Et. Donc, du coup, tu parlais de ta famille et tout, tes enfants qui demandent encore des séances de lecture, mais avec tout ce temps investi, est-ce que tu as quand même encore du temps à consacrer finalement à ta famille en dehors de ces sessions de lecture ?
Ouais, ça me laisse quand même du temps. Après, j'ai la chance qu'ils soient très patients et qu'ils acceptent de me voir passer des heures perchées dans un autre monde complètement déconnecté de la réalité, et qui ne m'envoient pas à l'asile quand ils me voient parler tout seul ou faire des mimer certaines scènes pour pouvoir mieux les décrire.
J'aimerais bien être une petite souris pour te voir faire.
Non, on ne peut pas me voir, interdit.
Et ton épouse dans tout ça ?
Eh ben, elle me soutient énormément, c'est aussi une chance. Elle est très investie dans ce que je fais et elle m'accompagne sur tous les salons. Et elle, en plus, elle traite toute la partie administrative.
Ouais, donc toi, t'as le beau rôle. Hein.
Oui, carrément. J'ai le beau rôle.
Bah, c'est vraiment super, du coup, que ce soit une aventure aussi un peu familiale. C'est parti avec tes enfants. Mais aujourd'hui, ta femme te soutient à fond là-dedans. Et du coup, tu me disais... Elle t'aidait pour l'administration. Quand tu fais des salons, justement, parce que je sais que t'en fais, c'est combien de salons par an, par exemple ?
J'en fais pas énormément, moi. Des salons, j'en fais peut-être 5 ou 6 par an, parce que je fais que des salons qui soient dédiés au Fantastic Fantasy. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est SF, Fantastic Fantasy, en France, c'est quand même assez difficile à vendre, parce que les gens sont pas archi intéressé.
En France, donc, c'est le polar, il voilà, n'y a que ça.
Ça tout à fait. J'osais pas le dire, mais...
Mais si, il faut le dire.
C'est exactement ça. Et donc, j'essaye de trouver que des salons dédiés. C'est pour ça que j'en fais moins.
Lesquels, du coup, par exemple ?
Le salon Fantastique à Paris, qui est quand même un énorme salon, qui est vraiment à voir, même en tant qu'éditeur, ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a énormément de cosplay, une ambiance de fou.
Qui est annulé cette année. J'ai appris ça cette semaine, ouais. J'étais très triste.
Après, il y a l'Orée des Légendes dans les Ardennes, qui est vraiment extraordinaire, parce qu'avec beaucoup d'artistes, une ambiance de folie, une organisation sublime. Après, le salon qui me tient à cœur, là, du coup, qui n'est pas un salon fantastique, c'est l'exception, c'est le salon du livre de Mers-les-Bains.
Ah, la pareil, mer.
Hyper bien organisé, puis bon, forcément, c'est la mer, quoi. Donc,
Il est en extérieur, du coup, ce salon ?
Non, il est en intérieur. Et après, mon rêve, c'est de réussir à faire Trolls et Légendes en Belgique. Ah oui. Mais ça a compliqué. J'espère qu'il y arrivera un jour, parce que c'est le salon du fantastique.
Écoute, c'est tout ce que je te souhaite.
Merci.
Et du coup, quand tu pars en salon, t'as tes 5 tomes à présenter, mais comment ça se passe en fait ? Comment tu attires les gens à venir à ton stand et à leur expliquer de quoi parlent tes bouquins ?
J'ai fait faire des illustrations, j'ai fait mettre tous mes personnages en images par un illustrateur qui est dans les Ardennes, lui aussi, qui s'appelle Cyril Barraud, qui est très doué. Et donc, ces images en grand format attirent beaucoup les gens, essentiellement le troll, parce que c'est une grosse créature massive qui est impressionnante. Les hommes aiment l'elfe parce que bah, c'est une elfe, elle est assez mignonne.
Ah, mais même dans le livre, déjà, l'elfe, elle attire tous les hommes, c'est fou ça. Même oui. Dans les salons aussi, du coup.
Oui, dans les salons aussi. Et le personnage qui attire les dames, c'est le nécromant. Les dames aiment beaucoup le nécromant et me demandent beaucoup de marque-pages nécromant, c'est rigolo. Donc il y a, ouais, donc, il y a ça, les personnages. Après, bah, moi, quand je fais ces salons-là, je suis habillé en cosplay aussi, bien sûr. Donc il y a toutes les armes qui vont avec, les épées, les haches.
C'est qui ton personnage à toi ?
Ah mais j'ai pas, moi. Mon personnage à moi, c'est le narrateur, du coup. Non, c'est une tenue d'aventurier standard.
Sans rien standard, selon tes standards. Quoi.
Ouais, selon mes standards. Voilà. Et donc après, si ce qui attire bien les gens aussi, c'est les cartes. Parce que je suis obligé de dessiner pas mal de cartes. Mes aventuriers voyagent énormément. Et pour rester cohérent sur les temps de transport, je suis obligé de dessiner des cartes à l'échelle. Donc assez détaillées. Et les gens aiment beaucoup les cartes. Et donc j'en ai actuellement une assez imposante que je mets sur les stands avec des gros dés de jeux de rôle qui sont très jolis. Et il y a pas mal de gens qui m'ont demandé au fur et à mesure si à chaque coup ils viennent, ils me demandent si c'est un jeu. Donc j'ai fini par développer un jeu de rôle aussi. Que j'amène sur les salons aussi maintenant. Après, sur autre chose que je fais sur les salons, je fais jouer les gens. Si j'ai créé il y a quelques années un jeu de mise en situation. Donc je mets les visiteurs en situation comme si c'était des aventuriers et ils doivent choisir ce qu'ils feraient. Donc d'accord. Ça, les gens aiment bien jouer à ça aussi.
C'est une sorte de mini-jeu de rôle.
C'est tout à fait ça, ouais. C'est un mini-jeu de rôle.
Et du coup, tu as creusé l'idée et tu en as fait un vrai jeu de société.
Voilà, j'ai creusé l'idée, j'en ai fait un vrai jeu de société. C'était un rêve qui me prenait depuis quelques années déjà. Je n'osais pas trop me lancer parce que c'est super compliqué à faire. Et là, j'ai bossé comme un fou pendant 4 mois dessus et j'ai fini par réussir à en sortir un. C'est tout nouveau d'ailleurs. J'ai fait 20 prototypes pour l'instant.
Ok, cool. Et tu les as fait tout seul ? Tu as pris des illustrations que tu avais déjà ? Tu as créé l'univers du coup où tu t'es appuyé sur tes livres mais,
Donc l'univers, bah, c'est l'univers de mes romans, bien sûr. Après, j'ai créé tout seul, ouais. Et pour les illustrations, j'ai pris plusieurs illustrateurs. J'ai pris mon illustrateur habituel, celui des Ardennes. Et j'en ai pris un que j'ai trouvé dans la région, à Clairoy. Donc, qui m'a dessiné la carte, lui. Après, le livret de jeu a été illustré par ma fille, donc qui dessine aussi.
Ah, c'est vraiment une histoire de famille. Hein.
Voilà. Et j'ai dedans une petite amulette qui a été faite par un artisan en France aussi, qui est aussi dans les Ardennes.
Donc, du coup, c'est, chaque boîte est unique, j'ai envie de dire, s'il y a de l'artisanat dedans.
Oui, ouais, on peut dire ça. Ouais. Chaque boîte est un peu unique, ouais, parce que tout est fait par des artisans. Quoi.
Ok, et du coup, pour l'instant, tu en as 20 boîtes, tu en as déjà vendues ?
Oui, j'en ai déjà vendues, mais il ne me reste plus beaucoup. J'en ai gardé quelques-unes. Après, je vais être obligé d'en refaire, parce que je vais en emmener sur les salons.
Obligé, comme... t'as vraiment pas de chance. Hein.
Non, donc je vais en refaire par série, et puis je vais pouvoir les vendre sur les salons, quoi.
Et tu les vends à combien, tes boîtes de jeux, du coup ?
Donc voilà, ça a été le défi, le gros défi du jeu, c'est que, bah, comme pour les livres, je voulais absolument que ça reste accessible. Donc je me suis fixé une barrière, j'ai dit 20 euros, pas plus. Donc j'ai fait tout mon jeu, donc dedans, il y a beaucoup de fiches, il y a une carte grand format, il y a un livret, il y a quelques gadgets avec aussi. Il y a des dés, il y a une sacoche de dés, des dés de jeux de rôle, parce que je les trouve rigolos, ces dés. Et j'ai réussi à rester à 20 euros. La boîte.
Ouais, 20 euros pour un jeu de société, moi ça me paraît correct. Louis, t'en dis quoi ?
Ouais, je pense que c'est à peu près dans les prix bas.
Ouais. Bah, ça a été super difficile parce que c'est l'impression surtout qui coûte cher. Donc, tout ce qui est impression couleur, ça coûte très cher. Donc, mais bon, là, ça va, ça se tient quoi.
Cool, bah écoute, c'est pareil, hein, j'espère que dans tes prochains salons, ça fera fureur et que ça donnera aussi envie aux gens de lire les livres parce que l'idée, c'est de se servir de ce jeu comme support de promotion.
Oui, parce aussi. Que c'est très, très humoristique. Le livret, je me suis inspiré un peu de la façon de faire des livres dont vous êtes le héros, Quête du Graal, qui était vraiment bourré d'humour. C'était super marrant, ces livres. Et d'ailleurs, le jeu est dédié à celui qui écrivait ces fameux livres dont vous êtes le héros.
Qu'on peut nommer.
Percé mon enfance, dont je ne me souviens plus le nom. C'est pas de chance. Hein. Mais okay. Donc, il est écrit dans le livret.
Non, mais c'est sympa de faire un petit clin d'œil aussi à ce qui nous a inspiré, hein, clairement.
Ouais, bah, de toute façon, tous mes livres, tous mes romans, à chaque coup, sont dédiés à des personnages qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé à écrire, quoi, quelque part.
Et du coup, tu disais que t'as mis à peu près 4 mois de travail intensif pour faire ce jeu. Et j'imagine que pendant ce temps, t'as mis l'écriture de côté, parce que tu peux pas être au four et au moulin.
Ouais, complètement, ouais. Parce que là, c'était vraiment tous les soirs et tous les week-ends. C'est un énorme boulot, parce que ce type de jeu, quand on les crée, il faut tenir compte des choix des joueurs qui vont être tout le temps différents en fonction des gens. Donc ça crée comme une espèce d'énorme toile d'araignée avec beaucoup d'actions qui doivent se regrouper.
Il faut garder la cohérence, tout ça. Il faut
garder la cohérence. Donc après, j'ai fait beaucoup de tests. Je l'ai fait tester, je dirais que c'est un 4 à 9 joueurs.
Donc, ah ouais, quand même.
Je l'ai fait tester à 9 joueurs en même temps, et puis 4, 6, j'ai vraiment fait pas mal de tests.
Il n'y a pas beaucoup de jeux qui se jouent à 9, à autant en tout cas.
Ah ouais. À 9, c'est folklore, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose, et c'est rigolo parce que personne joue de la même façon à chaque coup. Ils ont monté des équipes d'aventuriers, et chaque équipe abordait le jeu d'une certaine façon, et ça fait qu'il peut... Il peut être joué en énormément d'heures parce qu'il y a tellement de choix dedans que...
Oui, ça peut être un jeu fil rouge sur la semaine. On se dit, tiens, on y joue en famille une heure tous les soirs à la place de regarder la télé.
Ah bah, c'est, oui, c'est de l'aventure, c'est palpitant, quoi. C'est vrai qu'on s'amuse.
C'est cool. Et d'autres projets pour 2021, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Donc, pour 2021, donc là, je suis en train d'écrire le 6e tome, j'en suis à la moitié. J'ai aussi un recueil de nouvelles, j'ai quelques nouvelles qui sont écrites, il faut que j'en écrive 2 autres pour mettre dedans. J'ai un petit livre pour ados illustré par ma fille qui va sortir bientôt.
Auto-édité toujours ?
Auto-édité toujours, oui. Et okay. Par la suite, en fonction des retours sur le jeu, je referai une recharge, donc un deuxième livret qui marchera avec les mêmes boîtes. Donc ça permettra de pouvoir rejouer encore plus longtemps pour vraiment pas cher.
Pour plus de choses, pour créer un joyeux bordel.
Voilà, ouais, c'est exactement ça. Ouais.
Eh ben, écoute, de belles perspectives. Hein. Je te souhaite de réussir dans ta quête.
Ben, merci.
Et je confirme, tu es un auteur très prolifique quand même. Hein. Avec beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. C'est bien, ça va te servir un petit peu plus tard dans l'émission.
J'ai peur.
Bah écoute, je te remercie de t'être prêté au jeu de l'interview. On rappelle l'info importante où on peut te trouver sur les réseaux. Tu as dit qu'il y a une page Facebook Les Compagnons de l'Orbe et un site internet lescompagnonsdelorbe.fr.
.com,
pardon, autant pour moi. Voilà. Et quand même, j'oublie pas de dire qu'on peut nous retrouver, toi et moi, ensemble sur le même stand à la Compiègne Geek Convention les 4 et 5 juin prochains, en croisant les doigts pour qu'elle ait lieu. Mais bon, d'ici là, je saurais vous le rappeler. Il n'y a pas de souci. Eh bien, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Bag End de Howard Shore, qui est donc la bande originale du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Down from the door. And I must follow if I hear. The road goes ever on and on, down from the door where it began. Now far ahead the road has gone, and I must follow if I can. Et nous revoilà dans La Voix de la Plume. Eh ben, après Gilles, on va pouvoir interviewer Louis, qui est avec nous aussi ce soir. Alors, Louis Artige, si j'ai bien compris,
c'est ça, exactement.
Tu es scénariste, vidéaste, et tu as fini tes études il y a quoi, 2-3 ans là ?
Ouais, 2 ans, ça passe vite.
Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors ?
Eh bien, je suis vidéaste, freelance, donc voilà, j'essaie de développer, enfin j'ai une activité vidéo, puis j'essaie de développer des choses, on va dire, plus artistiques, avec des choses plus narratives, j'écris pas mal, et puis je fais des films en parallèle.
Et de quoi ça parle, ces films ?
Ah bah ça dépend, ça, du film, mais le dernier film que j'ai fait, qui a tourné un petit peu en festival, c'était un film fantastique, et ça racontait l'histoire d'une artiste peintre qui n'était pas contente de son tableau, et du coup elle le brûlait, et le personnage de son tableau revenait la hanter comme ça, donc c'est assez court.
Un petit côté Dorian Gray.
Exactement, ouais, il y a un petit côté Dorian Gray. Donc j'ai co-réalisé avec une amie, Sophie Chaffaut, et voilà, on aimait bien ce côté fantastique des...
De l'ambiance, tu veux dire ?
Voilà, c'est ça, l'ambiance fantastique, quand ça s'approche du réel, mais que ça flirte avec le fantastique, on ne sait pas trop.
Sans que ce soit forcément surnaturel pour autant, mais
voilà, c'est ça.
Qu'il y ait une ambiance un peu lourde.
Voilà, c'est ça, lourde, et en général, c'est quelque chose que j'aime bien faire, quelque chose d'un peu symbolique, métaphorique. J'adore beaucoup le surréalisme, tout ça, tout ce qui est un peu... c'est du fantastique, mais ça pourrait être dans la tête du personnage, on ne sait pas trop... Je ne sais pas si des gens connaissent Jean Cocteau ou des cinéastes comme ça, qui était poète aussi. Et du coup, lui, il voulait faire des films un peu comme il faisait de la poésie, c'est-à-dire pas forcément, on ne comprend pas forcément la narration. Et du coup, il a fait des films sur Orphée, le testament d'Orphée, où il jouit les mêmes. Et puis Orphée va dans les enfers, et puis il passe dans un miroir. Donc il y a tous un côté, c'est fantastique, mais il y a quelque chose de surnaturel.
Surréaliste dans la façon de le concevoir, en fait.
C'est ça, surréaliste dans la façon de concevoir, et c'est ça que j'aime bien faire quand je fais des films, quoi. Après, ça varie toujours en fonction s'il y a des contraintes ou des choses comme ça.
D'accord. Et quand on dit court-métrage, c'est combien de temps un court-métrage, en fait ?
Alors,
en moyenne ?
Je pense que ça dépend du pays, je suis pas sûr de ça. Il me semble que c'est 30 minutes, normalement, ou 50, et puis après, ça... Je crois qu'un long métrage, c'est une heure.
D'accord.
Et le moyen métrage est entre 30 et une heure, mais personne ne fait de moyen métrage à part la télé, parce que personne en, ça ne se vend pas, donc personne n'en veut. Donc personne
oui,
en
c'est fait, juste oui. Bon pour les épisodes de série. Quoi.
C'est ça. Ben non, après, y a des moyens métrages qui passent à la télé, ou maintenant avec les nouveaux médias, c'est plus facile de faire des moyens métrages, mais en général, ce n'est pas un format courant. Mais ouais, c'est en dessous de 30 minutes, quoi.
D'accord.
Mais moi, je fais que des courts métrages. C'est-à-dire, je dépasse généralement pas 20 minutes, donc ça dépend des films.
D'accord. Et on a le temps de faire une histoire comme ça en vidéo en 20 minutes ?
Ah, mais ça, c'est vraiment intéressant comme question, parce que en 20 minutes, oui. Après, c'est vrai que l'exercice court, ça m'a toujours intéressé, parce que même dans l'écriture, je fais des haïkus, donc c'est pas narratif, mais c'est vrai que. Faire un court-métrage, j'en ai fait pas mal, ou en 48 heures, ce qu'on appelle les kinos 48 heures, où en fait, on doit faire un film en équipe de 48 heures, et généralement, c'est des films avec des contraintes de 3 minutes, 2 minutes, et c'est vrai que raconter une histoire, faut être assez efficace, quoi, donc
Oui, il y a un côté très synthétique, du coup,
Ouais, il y a un côté très synthétique, et après, on n'attend pas forcément la même chose des courts-métrages, on attend que ce soit une tranche de vie, ou alors que ce soit très des films concept, en fait. Un peu comme le format court, les nouvelles, généralement, on va trouver souvent, c'est des concepts, il y a un concept, et puis ça, une fin qui va clôturer le concept, ou il y aura toujours des
ou une chute.
Ou une chute, et du coup, c'est ça, les courts-métrages, il y a souvent une chute, parce que c'est une manière facile de terminer.
Et qui laisse la porte ouverte aussi à l'imagination.
Voilà, c'est ça, je pense. Mais une série qui est intéressante en format court, c'est un peu plus long, mais c'est Black Mirror. Mm-hmm. C'est très des concepts, et il y a une fin sur ce concept, mais finalement, les personnages, ils passent pratiquement au second plan. Il y a très peu de développement de personnages, on ne les voit pas évoluer dans leur vie. C'est vraiment... Y a un concept et une fin, et c'est ça aussi qui fonctionne bien.
Oui, chaque épisode peut être pris de façon indépendante, voilà. Finalement. D'accord. Et tu fais ce genre de choses, des sortes de séries en court-métrage ou...
Non, je ne fais pas de séries en court-métrage, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai plein d'idées de séries. J'ai une série.
C'est bien d'avoir des idées.
Oui, c'est bien des idées. Encore faut-il avoir le temps de tout faire, quoi, parce que c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Le film, enfin... Puis ça prend du temps, et puis aussi beaucoup le cinéma, ça quand même, prend quand même beaucoup d'argent, beaucoup des équipes et tout. Donc, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'aime bien écrire, parce que des fois, on se dit c'est facile, j'ai une idée, puis je peux la mettre sur papier, puis elle prend forme directement. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de chercher des gens pour filmer, enfin, une équipe, il n'y a pas besoin de chercher d'acteurs et tout. Donc, je trouve que d'un point de vue artistique, les deux se complètent vachement bien, quoi. D'un point de vue du créateur. Les deux sont satisfaisants.
Ils sont complémentaires, en fait.
Ouais, voilà, ils sont complémentaires, tout à fait.
Et du coup, tu disais que tu étais freelance, et effectivement, que le cinéma, ça coûte de l'argent. Qui finance, t'as des commandes, du coup, de vidéos? Comment ça se passe?
En vidéo, ce que je fais, c'est souvent des contrats, des pubs, donc c'est pas vraiment quelque chose d'artistique. Et puis, en parallèle, je fais des choses soit plus artistiques, donc autoproduits, avec de l'argent que je mets moi-même avec ce que je gagne. D'accord. De mes autres contrats. Ou sinon, ce qui a marché là pour mon dernier film, c'était de faire un Ulule.
Ah oui,
qui était d'accord. Un page de
financement participatif.
Voilà, participatif. Mais en général, c'est la famille qui met beaucoup, la famille, le cercle proche ou le cercle secondaire.
Le réseau
le réseau. C'est ça, ou alors sinon, il y a des aides que je ne maîtrise pas encore, c'est un peu ma bête noire. Voilà, c'est l'administration.
Mais des fois, ça vaut le coup de creuser parce que...
Des fois, ça vaut le coup de creuser, et c'est vrai qu'on se dit, on arrive là et puis on a des envies créatrices, et puis en fait, on ne sait pas du tout. Faut gérer l'édition, enfin, faut gérer tout un tas de choses à côté qui prennent du temps, et puis des fois, le temps, il prend tellement qu'on n'a plus...
L'espace pour la création, il est réduit, quoi.
L'espace pour la création est réduit, et je trouve que des fois... on a besoin de temps, ouais, pour réfléchir à des idées, pour les...
Quel temps qu'elle mature.
Qu'elle mature, exactement.
Et ça, tu gagnes de l'argent avec les courts-métrages que tu fais, du coup, au-delà de tes contrats, ou c'est pas forcément le but recherché?
Le but, c'est le but recherché à long terme. Après, je crois pas que j'ai gagné de l'argent, ou peut-être des prix dans un festival des fois, mais généralement, ça rembourse à peine le... Ça rembourse à peine le coût du film. Donc non. Mais après, c'est le but, évidemment, recherché.
Oui, c'est le but final, mais pour l'instant, c'est la visibilité.
Voilà, c'est ça, se faire un réseau, des contacts, que notre patte soit reconnue, soit vue. Voilà, c'est l'idée.
Ok, et du coup, j'ai une autre petite question, parce qu'on était dans le domaine un peu de la fantasy tout à l'heure. On connaît beaucoup de films fantasy... science-fiction, c'est toujours des domaines qui demandent pas mal d'effets spéciaux quand on veut faire des films là-dessus. Est-ce que du coup, c'est des choses que tu fais aussi dans tes courts-métrages d'avoir des effets spéciaux?
En fait, ça demande beaucoup d'effets spéciaux parce que c'est surtout le temps que ça met, c'est très très long. Il y a des effets spéciaux assez simples à faire où quand quelqu'un est bon, il peut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les faire. Et dans ce cas-là, si c'est bénévole, ça coûte pas si cher que ça, même si c'est c'est pas réellement le coût que ça a mis. Ça dépend vraiment des effets spéciaux. Je sais pas si t'as des exemples.
Non, mais ma question, c'est surtout, est-ce que c'est des choses que tu fais dans tes... Enfin, est-ce que c'est des choses que tu ajoutes dans tes courts-métrages? Est-ce qu'il y a des effets spéciaux dans tes courts-métrages?
En général, il n'y en a pas.
D'accord.
Okay. En général, il n'y en a pas. Il y a du glitch, par contre.
C'est quoi, c'est le glitch?
Le glitch, c'est des déformations d'image, c'est une esthétique un peu, c'est quand ça, l'image casse, elle n'arrive pas à lire, et du coup, il y a ça. Ou sinon, pour le dernier film que j'ai co-réalisé, on avait des effets spéciaux, mais c'était minimaliste, ou alors il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qui va rendre le mieux. Et généralement, ça se fait au tournage, en fait. Il y a les effets spéciaux de la post-prod, c'est pas... c'est bien d'en avoir, mais c'est toujours plus facile au tournage. Par exemple, si on veut qu'un personnage soit plus grand qu'un autre, Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre derrière, enfin, on va le mettre beaucoup plus proche de la caméra et on va augmenter ce qu'on appelle la profondeur de champ pour que les deux soient nets.
Donc ça sera un effet d'optique, en fait.
Voilà, c'est un effet d'optique. Bon, ça, c'est une technique. C'est une technique et du coup, on a l'impression qu'il y a un personnage qui est beaucoup plus grand et c'est un peu ce dont on t'est servi. Voilà, ou alors, simplement, on met la personne sur une chaise et puis du coup, bah, elle est plus haute. Oui. C'est un peu des techniques comme ça mais qui finalement font gagner du temps et de l'argent et du coup, c'est quand même des techniques. Voilà.
Oui, ça ne demande pas de gros moyens, mais ça demande quand même d'avoir du coup l'œil du réalisateur, quoi, ou du vidéaste.
Oui, et aussi même l'œil du scénariste des fois, parce que forcément, quand on fait un film avec peu de budget, avec peu d'équipe, bah, on sait ce que l'équipe est capable de faire. Et du coup, quand on écrit, on va forcément faire des concessions. Et c'est pour ça que l'écriture, ça m'intéresse aussi, c'est que justement, là, il n'y a pas de concession à faire sur ce qui peut arriver au personnage.
Quand on écrit du coup tout seul.
Voilà.
Donc tout à l'heure, tu parlais de dire que tu écrivais des haïkus notamment. Est-ce que bah, du coup, tu écris aussi d'autres choses que des haïkus ou que tes scénarios?
En fait, j'écris des poèmes, pas seulement des haïkus, et aussi des nouvelles. Donc je reste dans le format court en fait. Et je me suis enregistré et j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je partage des contes audio. Je voulais qu'ils soient un peu des contes pas pour enfants parce qu'il y a des morts et tout ça. Donc, c'est pas du tout drôle.
On n'est pas dans l'humour, voilà, là.
Ils n'ont pas de point de destinée, malheureusement, même si c'est vrai. Ou alors, je fais un peu tout, de science-fiction. Il y a du science-fiction, du fantastique. Mais j'essaye toujours d'avoir une espèce de métaphore parce que j'aime bien lire de la philosophie et des fois il y a des pensées intéressantes et je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose qu'au lycée on n'a pas envie de voir et du coup je me dis bon bah cette pensée comment je peux la retranscrire dans une nouvelle pour que ce soit digeste et que ce soit plaisant à lire et j'aime beaucoup faire ça et du coup là j'aimerais bien faire quelque chose d'illustré. Ma sœur est en train de faire des illustrations pour plusieurs de mes nouvelles et j'aimerais bien en faire un bouquin auto-édité.
Bah, tu pourras toujours demander des tips agiles pour l'auto-édition.
Pour les illustrations et tout ça. Exactement.
Intéressant. Bah, du coup, un peu une histoire de famille aussi, si c'est ta sœur qui illustre.
Parce que, bah, c'est sûr que c'est toujours plus facile de trouver les personnes. Et puis, oui, c'est toujours plaisant de savoir qu'on travaille avec quelqu'un qu'on connaît.
Mettre en valeur des proches, c'est toujours chouette.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres projets pour cette année, cette nouvelle année? Ou est-ce que... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De retourner au cinéma.
C'est ah, j'avoue.
Dans les conventions, dans tout ça. Mais... Sinon, j'ai un autre projet d'auto-édition qui est des haïkus que j'ai fait pendant un an, donc 365, et le recueil s'appelle « Le temps qui passe ». Et il s'arrive très bientôt, là je suis en train de voir, il y a une graphiste qui est en train de faire le design, et donc là ça devrait arriver très prochainement, je sais pas encore quand.
En auto-édition aussi du coup ?
En auto-édition aussi, oui.
Cool, donc un recueil de poèmes pour l'année.
Ah, vous pouvez le lire plus vite si vous voulez.
Ok, bah écoute, super. Est-ce que, dernière question, peut-être que j'ai pas pensé tout à l'heure, quand tu fais des courts-métrages, est-ce que tu les présentes à des festivals? T'as rapidement dit que potentiellement tu pouvais gagner des prix, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est parce que tu les as présentés ou est-ce que...
Ouais, en fait, il y a beaucoup de sites. C'est des plateformes pour envoyer à des festivals. Donc en général, c'est payant, donc forcément... ça prend dans le budget et donc on l'envoie à plusieurs festivals où il faut cibler un peu les festivals qui nous correspondent le plus au film. Par exemple, les choses autoproduites ou les choses comme ça quand c'est autoproduit, les premiers films, ce genre de choses. Après, c'est quand même extrêmement compliqué parce que mine de rien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et c'est un temps qui n'est pas plaisant. Pour la personne qui le fait, parce que quand on a envie de créer, des fois on crée et puis on est bon, bah c'est bon, je passe
à la
création suivante, et puis en fait, non, parce que si personne voit le film, et du coup, ça demande plusieurs journées à juste envoyer à des festivals, à remplir des fiches de ça. Enfin, je suppose que
ouais, c'est un peu ce que tu disais, Gilles, aussi. Aussi
pour les conventions, c'est vrai que c'est pas la partie la plus plaisante, mais bon, il faut le faire.
Oui, parce qu'au bout du compte, on écrit pour être lu et on fait vite des vidéos pour être vu. Hein.
Exactement.
Donc, il ne faut pas l'oublier.
On aurait envie d'être lu directement, mais, mais oui, et puis les festivals reçoivent tellement de films que des fois, il y a des sensibilités, des fois aussi, le film n'est pas forcément le plus abouti parce qu'il y a eu... Enfin, voilà, il y a tout un tas de paramètres qui font que des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas.
Ouais, bah c'est un peu comme quand on envoie un livre à un éditeur.
C'est pareil partout. quoi. Mais je pense que l'important, c'est pas de se décourager. Quoi. De se dire, on a un refus et puis c'est tant pis, il faut aller plus loin.
Il faut garder le plaisir qu'on a à la création, ça. Pour continuer. Écoute, je te souhaite une bonne continuation dans tes activités. Et effectivement, si on pouvait retourner au ciné, ça serait bien cool. Merci de t'être prêté au jeu de l'interview, Louis. On rappelle aussi, avant de passer à autre chose, donc ta chaîne YouTube, c'est La Chiméra Tech.
Ah oui, alors c'est l'ami Chiméra Tech, c'est un casse-tête pour l'écrire, c'est Chiméra Tech comme une chimère avec un accent grave, et ça finit par Tech comme une bibliothèque avec un H.
Tech. Et est-ce que tu as un Insta?
J'ai un Instagram, sinon, où je publie mes poèmes, qui c'est louis.artige.
Ok, super. Ouais, écoute, on va suivre ça de près. En bon geek que nous sommes tous les trois, je vous propose un petit jeu, un petit portrait chinois de chacun de nous. Si on pouvait du coup rester dans le thème de science-fiction, fantasy, fantastique par rapport aux réponses qu'on va donner, ça serait vraiment cool. Qui de vous deux a envie de s'y coller en premier? Pas tous en même temps, hein.
Allez, vas-y, ok, c'est bon pour moi.
C'est bon pour toi. Alors, Gilles, si tu étais une créature imaginaire, tu serais?
Eh bien, je serais un troll massif.
Comme celui qui attire beaucoup les gens à tes
Voilà, ouais, parce qu'il a salons. Vraiment mon caractère, celui-là. Donc,
Je savais bien que tu étais un personnage. Si tu étais un roman de littérature de l'imaginaire?
Je serais La Belle Gariade de David Eddings.
D'accord. Un film de science-fiction, fantasy, fantastique?
Le Cinquième Élément. Moi, je suis vieux, donc j'ai le droit.
C'est un classique en même temps, c'est bien, il faut le rappeler. D'ailleurs, on passera tout à l'heure une musique du Cinquième Élément. Si tu étais d'ailleurs une musique de film?
Je serais la BO de Metro Exodus. C'est pas un film, mais ça devrait.
C'est un jeu vidéo,
c'est ça? C'est un jeu. Mais bon, comme j'attends qu'il sorte en film...
Ça compte. Si tu étais un objet magique, Gilles?
Je serais un artefact de Stalker.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc, Stalker, c'est un jeu aussi. C'est un post-apocalyptique. Et les artefacts, ce qu'ils appellent les artefacts, c'est des anomalies, en fait, qui sortent un peu partout suite à l'explosion de Tchernobyl. Et donc, moi, je serais ça. Parce que je les trouve bien sympas.
D'accord. Si tu étais une spécialité culinaire, tirée toujours du SFFF. Hein.
Un ours à la bière.
Ah ouais, c'est pas mal. Sans les poils, hein, j'espère.
Non, avec.
Et enfin, si tu étais une série?
Je serais Les Contines Barbares. En fait, c'est une web-série, mais que j'adore. Donc,
ouais. Ça compte aussi.
Ça compte aussi.
Super. Louis? Ton tour?
Tout à fait.
Si tu étais une créature imaginaire, Louis?
Je serais les elfes, mais ceux du Seigneur des Anneaux, parce que quand je marche, je suis tellement léger dans la neige que je ne m'effondre pas exactement comme Legolas.
Waouh!
Classe.
J'avoue. J'ai hâte qu'il neige, du coup. Demain, je crois. Si tu étais un roman de littérature de l'imaginaire?
Je serais L'Appel du Cthulhu.
L'Appel du?
Du Cthulhu, de H.P. Lovecraft.
Ah, ok. Si tu étais un film de science-fiction, fantasy, fantastique?
Je serais Princess Bride, parce que j'aime l'humour aussi.
C'est marrant de t'entendre dire « je serais princesse ». Si tu étais une musique de film?
Ouais, je serais la musique de Blade Runner.
Ah.
Le premier.
Le premier,
le second aussi.
Allez.
Tant qu'à faire.
Elles sont bien toutes les deux, donc fais un package. Si tu étais un objet magique?
Je serais la fiole d'Estus dans Dark Souls, le jeu.
Ah, le jeu aussi. C'est bien aussi d'avoir cet univers-là. Une spécialité culinaire ?
Ouais, bon, c'est pas vraiment du fantasy, fantastique ou science-fiction, mais je pensais les... Je serais les champignons qui font grandir dans Alice au Pays des Merveilles.
Ah ouais, si, ça marche.
Ah ouais, ça le fait, ouais.
C'est entre le conte et la fantasy, quand même, Alice au Pays des Merveilles. Hein. Oh, c'est bien, ça marche. Le champignon qui fait grandir. Pas mal. Et si tu étais une série ?
Je serais la série Dark Crystal, qui est sortie récemment, qui est adaptée du film Dark Crystal, et qui est vachement bien.
Ah, ok, je connais pas. Sur Netflix ?
Je crois que c'était sur Netflix, et même produit par Netflix, je pense.
Ok, je regarderai ça. Est-ce qu'il y en a un qui veut me poser les questions ?
Ouais. Je veux bien, je vais juste surligner.
Eh ben, quand tu veux.
Si tu étais une créature imaginaire.
Moi, je serais une licorne. C'est un petit clin d'œil pour ma sœur aussi.
Si tu étais un roman.
Hunger Games, parce que c'est un des premiers romans de fantasy que j'ai lu et qui était à la première personne, en fait, écrit à la première personne. J'ai vraiment trouvé que c'était hyper prenant.
Et parce que tu veux tuer tout le monde dans une arène aussi.
non, pas que, mais...
Si tu étais un film.
Mais je gagne, du coup.
Si tu étais un film.
Star Wars, épisode 6, Le Retour du Jedi. Voilà. Je précise parce que quand on dit Star Wars maintenant, c'est tellement devenu un univers en soi que. Voilà, cet épisode-là.
Si tu étais une musique de film.
Bah, du coup, je rejoins Gilles, je serais The Diva Dance, qui est extrait du cinquième élément. Et moi, je suis pas si vieille.
Si tu étais un objet magique.
Je serais la DeLorean dans Retour vers le futur. Retourner dans le temps, c'est cool.
C'était une spécialité culinaire.
La bière au beurre. J'aimerais vraiment goûter ça, la bière au beurre, dans Harry Potter.
Et si tu étais une série ?
Game of Thrones. Ouais, c'est cliché, mais en même temps, c'est tellement bien. Bon, bah voilà, ça nous fait quelques belles inspirations pour la suite. Je vous propose un petit atelier d'écriture avant de se quitter. C'était le deal, hein. On avait dit.
Je m'en souviens pas.
Ah ouais. Non, moi non plus, c'est bizarre. C'est quand même curieux.
Bon, allez. C'est pas quand même un auteur et un vidéaste qui vont me dire « Oh non, je n'ai pas l'imagination. » Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous munir d'une feuille et d'un crayon. J'en profite en même temps pour dire à nos auditeurs que s'ils ont envie de faire l'atelier d'écriture, ils peuvent le faire aussi en live avec nous. Ils s'équipent juste d'une feuille et d'un crayon aussi. Ça ne sera pas toujours les mêmes exercices forcément à chaque émission, on va changer. Pour cette fois, ce que je vous propose, c'est de partir d'un bref, très bref extrait d'un livre, une sorte de citation d'un livre de fantasy. Et de pouvoir, votre objectif à vous, c'est de contextualiser cette citation. Donc d'écrire soit une suite ou soit un avant pour savoir pourquoi la personne a fini par dire cette citation. Pour ça, vous aurez 8 minutes à peu près, c'est ce qui équivaut, on va dire, au temps de deux musiques qu'on va passer pendant que vous êtes en train de faire l'atelier. Si les auditeurs ont envie de participer et qu'ils veulent poster leur création, bah, ils pourront le faire sur la page Facebook de la radio ou éventuellement, ils peuvent me l'envoyer aussi en MP sur Insta et je pourrais le mettre dans mes stories. Donc, AYGBleu, mon Insta. Pourquoi participer à un atelier d'écriture en fait ? Parce que voilà, on est avec un auteur, on peut dire ok, mais Louis t'écris, mais tous mes invités mystères vont pas forcément avoir cette corde à leur arc. À quoi ça sert de participer à un atelier d'écriture ? Il y a plusieurs objectifs selon les exercices qu'on va proposer. Là, celui-là en particulier, bah, il va faire forcément travailler votre imagination. C'est le cas à peu près à chaque fois. Là, on va solliciter aussi votre capacité de réflexion et de concentration. Aussi parce que le temps est limité, on est quand même sous contrainte. Et finalement, la création sous la contrainte, c'est, moi, je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour créer des trucs improbables et qu'on n'aurait jamais fait si on s'était laissé du temps et qu'on n'avait pas de pression, comme tu disais, Gilles, tout à l'heure. Je trouve que la contrainte de temps, c'est aussi une façon de créer. Voilà, vous êtes prêts ? Je vous sens déjà à fond concentré. Ça va bien se passer, les gars, ça va bien se passer. Alors, la citation, elle est extraite du tome 1 de L'Épée de Vérité. Et la voici. « Fichtre et foutre, Richard, c'est exactement ça. Fiston, tu ferais un excellent sorcier. Merci, mais j'ai déjà un métier pourri. » Voilà. Je vous la relis une deuxième fois, et après, de toute façon, je vous la passerai, mais voilà. « Fichtre et foutre, Richard, c'est exactement ça. Fiston, tu ferais un excellent sorcier. Merci, mais j'ai déjà un métier pourri. » Donc voilà, le narrateur s'adresse à Richard pour lui dire qu'il ferait un excellent sorcier, et Richard lui dit qu'il a déjà un métier pourri. Donc, à partir de là, je vous laisse écrire une petite scène pour ajouter le contexte, début ou suite, à cet extrait. N'hésitez pas à partir de votre propre univers, hein, on ne se cantonne pas à l'épée de vérité, qu'on connaisse ou pas d'ailleurs. On fait appel à son imagination. Pas de questions, je vois que vous êtes déjà lancés. Et ben, si c'est bon pour vous, je vous laisse commencer. Voilà, à vos plumes, prêts, partez. Et pendant ce temps-là, nous, on va s'écouter un petit interlude musical afin de partager ensemble... Avant de partager ensemble les créations de nos deux invités, je vous propose un extrait du groupe Two Steps From Hell qui s'intitule Victory et qui est une musique tout à fait épique, suivie de The Hanging Tree, bande originale du film Hunger Games. Voilà, c'est parti, on a dit Victory d'abord. Bien voilà, nos deux invités dans La Voix de la Plume sont en pleine écriture. Donc je vais leur laisser encore, allez, 3 minutes 30 parce que je suis vraiment trop sympa. Le temps d'une deuxième musique. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met Et voilà, de retour dans La Voix de la Plume, où nos invités viennent de finir, ou presque, leur atelier d'écriture. Ça, en tout cas, je peux vous dire que ça a gratté fort là, pendant, pendant les 8 minutes qu'ils ont eues devant eux. Comment ça s'est passé? Quelles sont vos impressions?
C'était intéressant.
C'était court, du coup.
Ouais, moi la pression c'est pas mon truc, hein. Définitivement.
C'est vrai que tu l'as répété plusieurs fois pendant l'interview, pas de pression, pas de pression. Là ah du ouais. coup, bon, est-ce que vous êtes quand même prêt à partager avec nous ce que vous avez fait?
On n'a pas le choix, façon, je crois.
Prêt ou pas, on va le faire.
Ah, c'est gentil. Donc le principe de l'exercice proposé, c'était d'écrire une petite scène autour de la citation du livre de l'Épée de Vérité en 8 minutes. Allez, qui se lance en premier? Bah... Allez, Gilles, vas-y.
Moi, c'est moi. Attends, c'est vraiment pas de blabla. Refais le début, relis le début. Le...
Je relis le début.
L'intro. Donc, moi, j'ai fait deux lignes, ça va aller vite.
Très bien. L'idée, c'est y a pas de pression. Alors, si, il y avait une contrainte de temps, mais voilà, on est là avec bienveillance. C'est pour le fun. Hein. Tu ne seras pas noté à la fin, Gilles. Donc, la citation était la suivante. « Fichtre et foutre, Richard, c'est exactement ça. Fiston, tu ferais un excellent sorcier. »« Merci, mais j'ai déjà un métier pourri. » »«
Un métier pourri ? Et apprenti aventurier, tu devrais t'en rappeler, c'est toi qui m'y as collé. À part encaisser des lions et courir après des poules garous, j'ai rien gagné depuis 2 ans. Justement, en devenant sorcier, t'auras plus besoin de courir. D'ailleurs, je te laisse le choix. Soit tu acceptes, soit tu deviens toi-même une poule, mais sans plumes et avec une barbe.
Oh la loose.
Pas de chance.
Bon, bah, moi j'accepte, hein. J'accepte. Ok.
Obligé.
Pour quelqu'un qui aime pas la pression, je trouve que là, t'as mis le paquet.
Est-ce que les poules avec des barbes, ça fait partie de ton univers et tu les...
Ça pourrait, il pourrait y en avoir. Il y a toutes sortes de créatures dans mon univers.
En tout cas, je reconnais bien le ton de tes dialogues.
On se refait pas. Quoi.
Cool, bah merci d'avoir partagé ça. Mais c'est, non, je trouve vraiment qu'on reconnaît quand même ton style. Donc même en 8 minutes, tu vois, ça transparaît.
C'est l'instinct.
Louis ?
C'est parti. Moi, la citation est à la fin, je la redirai.
Ça marche.
Non, mais parce qu'il m'avait demandé une potion de mort, et j'ai compris, d'amour. Donc forcément, j'ai mis de la cannelle. Je pouvais pas deviner que le roi voisin allait tomber amoureux de lui. Merci, mais du coup, je lui dis quoi, moi, au roi ? Bah, qu'il se réfère au protocole. Il fouille dans un vieux grimoire et marmonne. Cas d'envoûtement, malencontreusement accidentel. Bon, ça devrait le faire, mais il me faut d'abord que quelqu'un signe une décharge. Je veux pas être responsable de moi. Ah bah moi je suis messager, donc bon c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc le protocole, ça doit être page 13 avec les formulaires de demande de sortilège express. Fichtre et foutre Richard, c'est exactement ça. Piston, tu ferais un excellent sorcier. Merci, mais j'ai déjà un métier pourri.
Eh hey, bravo. Sympa du coup, parce que toi, t'as fait le début de la citation, ouais. et puis Gilles a fait la fin. Donc un protocole à signer, sinon on se transforme en poule, c'est ça ?
C'est à peu près ça.
Vaut mieux signer du coup.
Vaut mieux signer la décharge, hein, je crois. Parce que... Parce que bon, se transformer en poule sans plume, avec une barbe ?
Ouais.
Ouais, non.
Ça doit être mieux.
Je signe la décharge de protocole page 13.
C'était page 14.
Page 14. Ah, bah, maintenant, on
n'a pas de chance.
Voilà, bim, transformé en poule. Ah, mince. Bon, bah, super. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir fait entendre votre voix, d'avoir aussi pris la plume pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, je l'espère. Un petit mot de la fin, qu'est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne nous avez pas encore dit, que vous avez envie de dire, une question que vous auriez envie de poser l'un à l'autre Peut-être que non, hein,
ouais,
si tout a été dit.
Je pense que ça nous reviendra quand ce sera coupé, à mon avis. Ouais,
ah, voilà. Ça reviendra après, tout à l'heure, quand tu seras dans ton canapé.
Exactement.
Ça marche. Bah, moi, je voudrais bien quand même, du coup, refaire le tour. Gilles, c'était donc Les Compagnons de l'Orbe, ça c'est ta saga fantasy. On peut te retrouver sur la page Facebook du même nom et sur le site lescompagnonsdelorbe.com.
Voilà.
Je ne me suis pas trompée.
C'est tout à fait ça.
Et Louis, du coup, tu nous redonnes tes...
Ouais. Alors soit sur YouTube, sur la Chimera Tech, comme une chimère avec et fini par bibliothèque, ou alors sinon sur Instagram, louis.artige.
Super. Eh ben, merci à vous deux d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, malgré la pression.
Bah, merci à toi de nous avoir invités.
C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. On se retrouve, Gilles, le 5 et 6 juin à la Compiègne Geek Convention, au Tigre. Et quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition le mois prochain de La Voix de la Plume, qui sera consacré à la romance, parce que le mois de février, c'est la Saint-Valentin, donc voilà, j'ai envie de faire de la romance. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site web Les Synergies d'Aurore et sur Insta, AYGBleu, pardon. Je vous laisse entre les mains d'Eric Serra et sa Diva Dance, dont on a parlé tout à l'heure lors du portrait chinois, qui sera donc un extrait du film Le Cinquième Élément. Bye bye à vous, lecteurs avisés et écrivains en herbe. À bientôt.